BW. Vue d'Allemagne.
Pour une partie de la population en Allemagne, réussir à l'école ne garantit pas de réussir dans la vie. Une enquête du Centre allemand de recherche sur l'intégration et la migration révèle que les personnes noires, musulmanes et asiatiques sont les plus exposées au risque de pauvreté en Allemagne. Explication dans un instant. En deuxième partie, on vous emmène au Cameroun qui prépare le retour d'une bonne centaine d'objets et ossements humains datant de l'époque coloniale. Les musées d'Allemagne abritent au moins 40 000 de ces biens pillés pendant la colonisation allemande. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue. Quelles sont les conséquences concrètes du racisme chez les personnes concernées en Allemagne? Une équipe de sociologues du Centre allemand de recherche sur l'intégration et la migration, le DETSIM à Berlin, a cherché à établir s'il y avait un lien entre le racisme et le risque de pauvreté. Et la réponse est... oui. Selon les résultats de l'enquête, ce risque peut atteindre environ 41% des hommes noirs, asiatiques et musulmans, contre 10% pour les personnes qui ne sont pas issues d'une minorité visible. Pour leur enquête, les chercheuses Terine Zalikutluk et Clara Podkovic se sont basées sur des données de l'Observatoire national de la discrimination et du racisme, portant sur un échantillon d'environ 21 000 adultes. Terine Zalikutluk est co-responsable de l'Observatoire.
Pendant longtemps, on ne savait pas du tout dans quelle mesure le racisme et le risque de pauvreté étaient liés. Si on regarde les statistiques officielles ou les rapports sur la pauvreté et la richesse du gouvernement fédéral, on voit généralement une répartition en fonction de l'origine migratoire et de la possession de la nationalité allemande. Ce qu'on n'avait pas pu établir jusqu'à présent, c'est ce que vivent les personnes qui appartiennent à des groupes impactés négativement par le racisme en Allemagne.
Les sociologues ont exploré différents domaines, le système d'éducation, le marché du travail, celui du logement et aussi le secteur de la santé. Elles se sont également appuyées sur des études antérieures qui ont déjà montré qu'il y avait par exemple de la discrimination dans la recherche d'un emploi, autant de facteurs qui augmentent le risque de tomber en dessous du seuil de pauvreté. En Allemagne, on considère qu'une personne est menacée de pauvreté si elle dispose pour elle-même d'un revenu inférieur à 60% du revenu médian. En 2023, le seuil était de 1 310 € par mois. Selon les réponses apportées par l'échantillon des personnes interrogées, 5% des Allemands non issus de l'immigration se trouvaient sous cette limite, malgré un emploi à plein temps. Pour les personnes noires, musulmanes et asiatiques, le taux était en moyenne de 20%. Le problème, c'est qu'une bonne formation, que ce soit un diplôme de maître artisan ou une thèse universitaire, ne protège pas nécessairement de la précarité. Selon l'étude, les personnes ayant eu des expériences racistes présentent un risque 2 fois à 7 fois plus élevé. Avec un taux de 33%, les hommes musulmans sont les plus touchés et de loin. Terine Zalikutluk a une explication pour ce phénomène.
Environ 20% des personnes musulmanes que nous avons interrogées sont arrivées en Allemagne depuis 2013. Elles sont arrivées de Syrie, d'Afghanistan et d'autres pays fortement touchés par la pauvreté. Et pour les réfugiés, il est déjà connu qu'ils sont exposés à un risque de pauvreté plus élevé en raison de leur accès plus difficile au marché du travail, par exemple.
Mais les personnes issues de l'immigration qui vivent depuis plus longtemps en Allemagne, voire qui sont nées ici et ont la nationalité allemande, sont également discriminées. Terine Zalikutluk renvoie à des expérimentations menées pour révéler les discriminations, des dossiers de candidature identiques envoyés sous des noms différents. Le résultat est sans appel.
Les personnes qui ont un nom à consonance turque, par exemple, ont peu de chances ou moins de chances d'être invitées à un entretien d'embauche. Ce sont bien sûr des points sur lesquels il faut agir.
Selon la sociologue, les résultats de l'enquête montrent qu'il faut prendre des mesures ciblées pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances pour les groupes défavorisés. L'étude propose des pistes concrètes, notamment la reconnaissance des diplômes et compétences professionnelles acquis à l'étranger. Cela accélérerait l'entrée des réfugiés et d'autres migrants sur le marché du travail allemand et permettrait à des professionnels titulaires de diplômes étrangers d'avoir accès à des métiers adaptés, est-il précisé dans le document. Pour une intégration rapide sur le marché du travail, travail, l'équipe de Tserine Salikoutlouk recommande un accès plus rapide à des cours de langue et d'intégration. Ce n'est en effet qu'en s'assurant que les revenus d'une activité professionnelle couvrent les frais d'existence que l'on pourra faire diminuer le taux de pauvreté chez les réfugiés. Vue d'Allemagne, deuxième partie, 40 000 objets pillés durant la colonisation allemande au Cameroun sont recensés dans les musées publics d'Allemagne. Parmi eux, le trône du sultan des Bamoun ou le tangué du roi Lok Priso de Bonaberry, mais aussi des objets du quotidien comme des cuillères ou des instruments de pêche ou encore des crânes et ossements humains. Ces objets sont actuellement étudiés en Allemagne par un collectif de chercheurs multidisciplinaires de différentes nationalités dirigé par Bénédicte Savoie, professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Les premiers résultats de l'enquête sont réunis dans une publication de 500 pages intitulée « Atlas de l'absence, le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne ». Pendant ce temps, le Cameroun, justement, prépare le retour d'une partie de ses objets. C'est le reportage de notre correspondant à Douala, Henri Fautso.
Sur la rive droite du fleuve Vouri à Douala, une célèbre phrase en pidgin English de Lok Priso Kumamba Pebel est gravée à jamais dans la mémoire collective du Cameroun. Pull that flag down, no man by we. Traduction. Enlevez-moi ce drapeau, personne ne peut nous corrompre. La lettre adressée le 28 août 1884 par le roi d'Ikoretan, l'actuelle ville de Bonaberry, au consul allemand Max Buchner, confirme son nom au drapeau allemand sur Bonaberry et son refus de signer le traité germano-douala un mois plus tôt, le 12 juillet. La réplique allemande ne se fait pas attendre. Une guerre sanglante est déclarée. Le palais royal de Bonaberry est bombardé. Des pillages ont lieu. Le tangué de Lok Priso, par exemple, est emporté vers l'Allemagne. Aujourd'hui, en 2024, le tangué est toujours conservé au Musée national d'ethnologie à Munich. Un comité interministériel est sur pied à Yaoundé depuis février 2023. Chargé de négocier avec le gouvernement allemand pour le rapatriement de ce tangué et d'autres objets d'art volés pendant la colonisation. Cette commission est parfois critiquée parce que d'aucuns estiment que le gouvernement camerounais n'organise pas les choses correctement. À Bonaberry, le professeur Prince Kouma Doumbé III, petit-fils de Lok Priso, ne décolère pas par exemple.
Excusez-moi d'être un peu dur. Des gens qui ne peuvent même pas lire l'allemand. C'est eux maintenant qui doivent aller négocier, puisque je connais la commission. Et quand la commission là a été établie, j'ai écrit au président de la République que, attention, là vous allez avoir des gens de très haut niveau, comme les Bénédicte Savoie, avec lesquels il faudra négocier. Des gens qui travaillent sur le dossier depuis des décennies. Vous ne pouvez pas maintenant nommer seulement des fonctionnaires. Hein, et certains chefs traditionnels qui n'ont jamais été préoccupés de la question, sans mettre les experts, les gens compétents.
Le prince Kouma Doumbé III affirme n'avoir jamais eu de réponse du chef de l'État camerounais à la lettre critique. Du côté de l'État allemand, on se dit désormais prêt à restituer à l'État camerounais les objets d'art emportés pendant la colonisation. Mais cela n'est pas sans poser le problème de légitimité des éventuels destinataires. Explique encore Prince Kouma Doumbé III.
L'État du Cameroun n'existait pas en 1884. Ce sont les royaumes camerounais qui existaient et qui ont fait la guerre avec les colons allemands. Maintenant, quand on dit qu'il faut restituer, nous sommes devant un problème concret. Vous avez beaucoup de royaumes et de chefferies aujourd'hui qui ne sont pas de la lignée de ceux qui étaient là en 1884. Et l'exemple de Bonaberry est un exemple patent.
Les colons européens et l'État du Cameroun indépendant ont ainsi destitué au cours de l'histoire de nombreux chefs traditionnels locaux dont les descendants ne sont plus aujourd'hui des interlocuteurs officiels. Cela complique les modalités et le financement du processus de restitution des biens. Néanmoins, un accord de principe pour la restitution a été signé entre le Cameroun et l'Allemagne en juillet 2022. Cet accord prévoit la restitution de 129 objets d'art, dont des sculptures, des masques, et des bijoux. Un chiffre qui peut paraître dérisoire quand il est établi qu'à peu près 40 000 objets camerounais sont détenus dans les musées publics en Allemagne. Ce n'est que le début du travail, assure le docteur Richard Zogang Fossi, chercheur à l'Université technique de Berlin, qui fait partie de l'équipe qui a mené l'étude intitulée « Présence invisible en Allemagne d'un patrimoine absent du Cameroun ».
Cela appelle à beaucoup d'autres questions qui malheureusement restent encore sans réponse parce que c'est comme un océan d'informations que nous avons ouvert. La partie des archives, par exemple, que nous avons parcourues n'est encore rien comparé, n'est-ce pas, à tout ce qui reste. Donc, pour dire vrai, ceci n'est que la partie visible de l'iceberg.
L'État allemand a déjà exprimé sa volonté de financer l'opération de restitution, mais le montant exact n'a pas encore été dévoilé. Il existe trois destinations possibles pour ces objets. Les communautés d'origine, les musées nationaux et encore les musées étrangers. D'ici là, les chercheurs tentent de retracer l'histoire précise de tous ces biens. C'est le cas du docteur Michael Alsekinga, anthropologue à l'université de Göttingen, au centre de l'Allemagne. Il travaille sur les crânes et ossements humains camerounais de l'époque coloniale détenue encore en Allemagne.
Il y a un projet en cours qui vise à identifier tous les musées, toutes les collections universitaires, ethnographiques, ainsi de suite, qui contiennent des restes humains issus des contextes coloniaux allemands au Cameroun. Il y a 10 crânes du Cameroun et mon travail consiste à identifier notamment le contexte tragique dans lequel ces crânes-là ont été transférés en Allemagne et de dire comment ils sont traités sur place et de révéler surtout l'histoire qui a conduit au massacre, à la profanation des tombes. Pourquoi ? Parce qu'il faut restituer le narratif qui est derrière et probablement mettre les communautés d'origine en contact avec leurs ancêtres pour qu'ils puissent les enterrer dignement. Parce que dans les cultures camerounaises, les morts doivent être enterrés.
Le comité interministériel camerounais chargé du rapatriement des biens culturels issus du contexte colonial travaille en ce moment sur les procédures nécessaires à la restitution des objets d'art camerounais emportés pendant la colonisation. Étape complexe et délicate, signe qu'il faudra encore du temps pour que tous les objets d'art camerounais soient restitués. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle.
Une affaire à suivre donc, et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. La semaine prochaine, rendez-vous avec l'ami Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!